Donc je m'appelle Arnaud Lamonica, ça a été dit, je suis marié, j'ai 3 enfants. Toujours été dans l'Est, mais effectivement dans les Vosges et Nancy, Lorraine, là depuis maintenant 8 ans. Et heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Il y en a la plupart que je connais parce qu'on s'est rencontrés lors de Bouge ta ville, quand je suis venu prêcher à votre église. Et puis en plus, maintenant, comme je suis à Saint-Dié, ben, il y a des gens de la famille qui sont à Saint-Dié. Enfin, la famille de Dieu, c'est une grande famille. À 11h, on aura la pause, c'est-à-dire c'est dans 3 quarts d'heure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partager pendant une demi-heure. Et après, pendant un quart d'heure, que vous puissiez poser les questions que vous voudrez par rapport au thème que l'on va partager ensemble. Est-ce que ça vous dit? Vous m'entendez bien? Ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Plus fort? Qui a demandé plus fort?
Oh, il est un peu chaud.
Il y a de la place là s'il faut.
Voilà. Il a coupé les oignons hier soir. C'est bon.
Parce que sinon, sur l'enregistrement, on va croire que je hurle.
Ouais, voilà.
Donc le thème qu'on m'a demandé d'aborder pour ce week-end, c'est sur le discipulat. Être disciple, ce que cela veut dire. Et j'ai proposé donc pour ce thème un texte qu'on va prendre dans les psaumes. Vous connaissez les psaumes? Vous êtes en week-end, vous avez amené vos bibles quand même ou... Oui. Alors on va prendre le psaume 1. Ça vous dit? Si vous le cherchez, il est juste avant le psaume 2. Job 42. Oui, aussi. Et voici ce que l'on lit. On va lire le psaume en entier, il n'est pas long. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Et ce que je veux partager avec vous pour ce week-end, c'est cette expression du psalmiste qui nous dit « Il est comme un arbre ». On m'a demandé si je voulais un vidéoprojecteur et j'aurais bien aimé vous présenter, vous projeter pendant toute la session un arbre. Mais ce n'est pas utile. Vous avez tout ce qu'il faut. J'espère que tout le monde a vu un arbre, déjà dans sa vie. Sinon, il faut ouvrir les yeux depuis que vous êtes arrivé. Mais comme un arbre, ça peut être quelque chose de particulier. Un arbre, c'est immobile. Un arbre n'échange pas avec nous. Mais par rapport au discipulat, il y a toute une réflexion que l'on peut mener et il y a 3 points qui ont été retenus, donc on va partager maintenant, tout à l'heure après la pause et ainsi que demain matin. Le premier point, on va parler du tronc. Après, on parlera des branches. Et demain, on parlera des feuilles. J'avais proposé plein de thèmes, il y a les racines, il y a les fruits, il y a plein de choses. Mais bon, on m'a dit, il faut quand même qu'ils passent un peu de temps ensemble, qu'ils mangent. Moi, je vous aurais proposé 10 heures d'études, 12 heures d'études, mais on m'a dit non. Je ne sais pas pourquoi. Le mot arbre est 146 fois dans la Bible, au singulier comme au pluriel. Il est présent dans la Genèse, et de manière importante. Il y a 2 arbres spécifiques. Un arbre duquel il ne fallait pas manger, et un arbre dont l'homme n'aurait pas dû se priver. Et étonnamment, on retrouve aussi un arbre dans l'Apocalypse. Étonnamment, non. Parce que il y a quelque chose que Dieu veut nous donner là. L'image de l'arbre pour les hommes a toujours été quelque chose de fort. On en a même fait un culte, une adoration. Et dans notre nation française, du temps des Gaulois, les druides passaient leur temps dans les arbres à couper le gui, etc. Et j'ai même remarqué, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage, il y a même des gens qui vont faire des câlins à des arbres. Particulier, hein. Eh oui, dans pas longtemps, on va adresser des prières aux arbres et on va revenir à des choses que l'homme fait depuis des années, vénérer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais quand le psalmiste nous dit comme un arbre, il y a effectivement des choses que l'on peut retirer pour nous, en tant que chrétiens, pour grandir, Parce qu'un arbre, c'est quand même une image de stabilité, de force, de tranquillité, de rempart, d'abri. Il y a plein d'essences d'arbres dans la Bible. Vous pouvez m'en citer quelques-unes ?
Le cèdre,
le palmier, le sycomore, l'olivier, le chêne, l'érable, le charme, le platane, le figuier. Il y en a plein. Ça nous parle aussi de la création qui nous enseigne et des choses que l'on peut retenir pour nous concernant notre vie de disciple. Et vous savez de quoi est constitué un arbre ? Rapidement, petit cours de biologie. Il y a donc les racines, ensuite le tronc avec l'écorce, ensuite les branches, les feuilles, les fruits, et puis la serre, etc., etc. Ok, donc je vois que j'ai pas besoin de vous faire tout un cours de biologie, c'est très bien. Petite introduction quand même sur les racines. Les racines sont nécessaires pour que l'arbre se développe. Un arbre ne pousse pas seulement à notre vue, mais il va aussi dans la terre. Et en fonction des essences d'arbres, certains ont des racines qui s'étalent, d'autres vont en profondeur. Et la Bible nous parle d'être enraciné en Jésus-Christ. Alléluia! C'est important de prendre racine. Un arbre ne se déplace pas en cas de danger. Quand il y a un feu, vous ne voyez jamais les arbres prendre leurs racines à leur cou et aller se planter ailleurs. Elles restent là. Les arbres sont plantés en un endroit. Et ceux qui gèrent des forêts, est-ce qu'on a des sylviculteurs au milieu de nous, des gardes forestiers ? Comme ça, j'aurais pu avoir des détails très importants. Non, c'est pas grave. Les racines sont nécessaires, elles sont essentielles au développement de l'arbre, mais à un tel point qu'elles changent même l'environnement de l'endroit où l'arbre est planté. Et ces racines sont nécessaires parce que sans ces racines, l'arbre ne pousse pas. Et ça nous parle, pour moi, de notre communion avec Dieu, qui n'est pas visible aux yeux de tous, mais qui est nécessaire pour que nous puissions grandir, être plantés en Jésus-Christ et avoir une relation directe avec lui pour qu'il puisse opérer en nous la croissance qu'il demande. Et donc, quand un arbre pousse, qui a déjà vu un jeune arbre ici ? Un arbrisseau. Qui a déjà grimpé sur un arbrisseau ? Personne. Ah, pourquoi ? Trop fragile. On peut mettre un tuteur pour l'aider à pousser loin. Il peut mettre personne à l'abri. Mais c'est quand même un arbre. À partir de la graine, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il devienne l'arbre qu'il doit devenir. Mais ce n'est pas encore prêt. Et la Bible nous parle du fait, quand on s'approche du Seigneur et quand on donne sa vie à Jésus, eh bien de ne pas vouloir aller trop vite. De peur d'être cassé, foulé aux pieds. Un enfant est capable, même un bébé, de briser un arbrisseau. Par contre, le plus fort d'entre nous peut s'attaquer à main nue à l'arbre de son choix. On va voir vite qui va gagner. Le tronc va se développer au fur et à mesure, et c'est lui qui va donner à l'arbre toute sa force. Vous visualisez bien le tronc d'arbre ? Quelles en sont les caractéristiques principales ? Je vous écoute. Il est dur. Entouré d'écorce. Il est droit. Quand il le peut, parce qu'il y a des essences assez particulières, mais en général, oui.
Son diamètre augmente légèrement tous les ans.
Oui. Résistant. Il est nécessaire. Parce que pour que la sève arrive aux feuilles, il faut bien qu'elle passe quelque part. Le tronc est la première partie qui va faire en sorte que l'arbre va prendre de la force. Et comme cela a été dit, cela va se faire au fur et à mesure. Ces cellules s'appellent les méristèmes. Je n'ai pas obligé de retenir. Mais il y a cette division cellulaire qui se fait au sein de l'arbre au fur et à mesure qui fait qu'il va prendre chaque année non seulement de la hauteur, mais de l'envergure. Et un chrétien, c'est pareil. Est-ce que vous savez que vous êtes tous appelés à devenir des colonnes dans l'Église, que ce n'est pas réservé à quelques-uns. Souvent, en tant que chrétien, on voit ceux qui sont anciens dans la foi et on se dit « Waouh ! Moi, j'aimerais bien pouvoir en savoir autant que lui, avoir la telle assurance, etc. » Et puis on se dit « Mais moi, je ne serais pas capable de faire ceci, je ne serais pas capable de faire cela. » Mais dites-vous bien une chose, que le Seigneur Jésus a mis en nous sa nature et qu'il va faire grandir les choses au fur et à mesure. Et est-ce qu'un chrétien doit être dur ? Tout de suite, je suis sûr que dans vos têtes, il y a eu des images. Peut-être même des visages ou des noms. Oui, parce que l'image qu'on a du chrétien, il doit être doux. Jésus a dit d'ailleurs, mon joug est doux, mon fardeau, je suis doux et humble de cœur. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Mais la force, la puissance, la résistance, c'est aussi être dur, pouvoir résister aux tempêtes, aux difficultés. N'est-ce pas là toute la force d'un arbre enraciné et avec un tronc puissant pour tenir ferme quand il y a besoin. Quelques versets bibliques. Ésaïe 40, 24 nous dit « Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux, ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. » Le tronc en lui-même ne peut rien s'il n'est pas enraciné. Et quelle que soit la force que l'on ait, parce que des fois, en tant que chrétien, on aime bien s'appuyer en tant qu'homme sur ce qu'on est, nos diplômes, nos formations, nos expériences, etc. Et parfois, on a vu des grands tomber. Des gens qui nous semblaient inébranlables tomber. Parce qu'ils ont négligé que le tronc n'est rien sans la racine. Si la masse est saine, si la racine est saine, le tronc le sera aussi. Et quand le psalmiste nous parle d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il précise bien être planté. Et quelle que soit l'expérience chrétienne que l'on a, les choses que l'on a traversées, les difficultés que l'on a vécues et les gloires dont on a pu être le témoin, ne jamais oublier que tout cela c'est possible parce qu'on est enraciné en Jésus. Le nombre de fois où on s'appuie sur nos forces, et le psalmiste le dira souvent, ce n'est pas leur arc ni leur épée qui les a sauvés, mais c'est le Seigneur qui est venu à leur aide. Alors, attention à ne pas se dire un chrétien, ça doit être fort en tout temps, en toutes circonstances. Mais un chrétien, ça ne doit pas être faible non plus. Le tronc, effectivement, est entouré d'écorce. Est-ce que vous connaissez la fonction de l'écorce ?
Protection.
Protection, oui. Contre quoi ? Les ennemis, les parasites, les amoureux. Les amoureux, c'est dangereux pour un arbre. Parce que sur l'écorce, ils vont faire des petits cœurs avec des initiales, et puis pour toujours. Il y a les animaux qui viennent.
Manger. Hein.
Manger, se gratter de dos pour les ours, ou frotter leur bois pour les rennes, etc. Et l'écorce, elle est là pour empêcher, effectivement, le dessèchement de l'arbre. Est-ce que ça se voit qu'un arbre est rempli d'eau? Ça se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est bien caché dans l'écorce, et parce qu'il faut qu'effectivement la sève et tous les nutriments qui passent dans le tronc soient à l'abri des maladies, sinon tout cela va être un vecteur pour aller vers les feuilles, les fruits, et être mauvais pour l'arbre. Et un arbre desséché, c'est pas difficile à faire. Si vous enlevez l'écorce sur toute la circonférence de l'arbre, il n'en a plus pour longtemps. Aussi puissant soit-il, l'écorce, qui n'est quand même pas quelque chose de bien épais, si on l'enlève sur tout le tour de l'arbre, même s'il est centenaire, il ne tiendra plus longtemps. Donc l'écorce a ce devoir de protection. Mais ce qui fait la force de l'arbre, c'est ce qui circule en lui. Et le tronc d'arbre est dans cette image-là, me fait penser, bien sûr, au fait que à l'intérieur, il faut qu'on soit constamment irrigué. Et l'ennemi de nos âmes veut enlever l'écorce. Quelle est l'écorce qui entoure les chrétiens ? La cuirasse, oui. Dans les armes de la foi, dans Éphésiens chapitre 6, la cuirasse de la justice. Je vais vous dire même quelque chose de plus fort que ça. Le sang de Christ qui nous couvre, qui nous revêt et qui nous rend imperméable au péché. Alléluia. C'est pas rien d'être imperméable au péché, au parasite. Quel est le parasite qui veut attaquer nos âmes? Oui. Et quelle est son arme? Le péché, la tentation,
le mensonge,
etc. Et qui vient nous attaquer. Et malheureusement, quand on commence à prêter un petit peu trop attention aux pensées du diable, à contrario de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on commence à se dégarnir au niveau de l'écorce. Notre assurance, notre foi, l'écorce, ce n'est pas juste le sang de Christ qui nous purifie de tout péché, mais c'est aussi la confiance dans la parole de Dieu, la confiance dans ses promesses. Et quand on commence à en douter, quand le doute vient, alors les parasites peuvent venir. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les parasites de l'arbre, ce qui vient à bout de cette colonne, ce sont des champignons, ce sont des insectes, ce sont des choses microscopiques. Alors veillez à ce que vous soyez toujours bien entouré d'une bonne écorce solide. Ne pas laisser le diable venir enlever cette écorce. Et on sait comment il fait. Même avec le Seigneur Jésus, il a essayé plusieurs fois de le tenter en le faisant douter de la parole. Mais n'est-il pas dit que si tu te jettes d'ici en bas, tu ne t'arrivera rien de peur que tes pieds ne heurtent une pierre, les anges te porteront sur leurs mains. C'est ce que Jésus lui a répondu.
Il est écrit.
Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il lui a répondu à chaque fois, pas. Il est écrit. La parole de Dieu est pour nous un rempart, une forteresse, cette écorce qui nous permet de dire aux attaques de l'ennemi, tu n'empêcheras pas la vie de circuler en moi. Le tronc, c'est aussi l'image de l'unité. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul sauveur. Un arbre n'a pas plusieurs troncs, il n'en a qu'un. Des fois, des arbres sont collés entre eux, mais il y a le tronc, et puis au-dessus, vous avez les branches. Qui elles partent en ramification, mais ça c'est pour tout à l'heure. La colonne, l'appui de la vérité, c'est l'Église. Dans un arbre, quelle est la partie que les hommes exploitent le plus?
Le tronc.
Le tronc. On appelle le fût aussi. Et une futaie, c'est une forêt d'arbres qu'on a bien entretenu pour qu'ils soient bien droits, pour qu'ils soient vraiment utiles le plus possible pour l'industrie. Et je pense qu'on a des éléments de tronc là. Alors, elles sont plus vivantes depuis longtemps, mais ça perdure. Et si c'est entretenu, ça tient longtemps. Dans la vie de disciple, il est important non seulement de croître, mais de réaliser que le Seigneur nous incite à bâtir en or, en argent. Pas en paille, en chaume, pour que les choses que l'on va vivre pour Dieu dépassent même le cadre de notre petite existence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, et la parole de Dieu nous parlera, d'imiter ceux qui nous ont précédés, de regarder même comment a été leur fin, afin de pouvoir être nous-mêmes des imitateurs de ce qu'ils ont fait et pouvoir transmettre cela aux autres. Comme Paul pouvait dire, moi je suis l'imitateur même de Christ. Important de dire que notre foi, elle doit être basée sur la parole de Dieu et elle seule. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de courants qui essayent de faire plein de choses. Essayant d'altérer l'autorité de l'Écriture, d'altérer l'autorité de la parole de Dieu sur nos vies. Mais il est nécessaire de dire, Seigneur Jésus, moi ce que je veux, c'est être un tronc bien droit pour toi. Et que je puisse transmettre la vie des racines de ce que je reçois dans ma communion jusque dans mon service. Vous suivez pour l'instant? Bon. Qui a déjà vu un arbre coupé? Sinon, on peut faire un concours de bûcheronnage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un tronc?
Les cercles.
Les cercles, oui. Qu'on appelle des cernes aussi.
Voilà,
des cernes. Ok. Qui a déjà vu l'intérieur d'un tronc? Et des cernes. Ça nous parle de quoi, les cernes? De l'âge de l'arbre. Mais encore. Avez-vous entendu parler de la dendrochronologie?
Tous les jours.
N'est-ce pas, hein? Au café le matin. La dendrochronologie, c'est bien pour placer au Scrabble. Quand quelqu'un micronologie, vous avez juste à mettre Dendro devant, hein, parce que sinon vous avez plus de 7 lettres. C'est une méthode scientifique qui permet la datation des pièces de bois à l'année près, et en analysant la morphologie des anneaux de croissance. Ça permet également de reconstituer les changements climatiques et environnementaux. Sachez qu'un arbre garde en lui, par rapport à ses cernes et de la manière dont son tronc est constitué, la mémoire de tout ce qui s'est passé. Les changements environnementaux, s'il y a eu des pollutions, s'il y a eu de la sécheresse, tout ça peut se voir quand on coupe l'arbre. Quand on va voir à l'intérieur. Mais de l'extérieur, on ne va rien voir. Et moi, ça me parle de l'expérience de nos aînés dans la foi. Avez-vous déjà été au bénéfice de quelqu'un qui est passé par telle épreuve, qui vous dit, voilà, moi j'ai traversé la même chose que toi, mais voilà comment le Seigneur m'a aidé, voilà comment le Seigneur m'a béni, voilà comment le Seigneur m'a guéri, voilà comment il m'a aidé. Et aujourd'hui, si tu vois rien, sache qu'à l'intérieur de moi, tout ça, c'est là, mais ça rend gloire à mon Dieu parce qu'il a été fidèle pour moi et il peut l'être pour toi. Gloire à Dieu. Et pour qu'on puisse dire cela, il faut l'avoir vécu, c'est-à-dire tenir ferme au moment des épreuves, des tempêtes, des difficultés, des pollutions. Et excusez-moi, mais des pollutions, des sécheresses, des difficultés, qu'est-ce qu'il y en a dans notre monde ? Et je ne parle pas que d'un point de vue physique, mais spirituellement, moralement. Il y a moyen d'être attaqué de tellement de manières. Mais béni soit Dieu pour ceux qui peuvent témoigner de la fidélité qu'il a montrée à leur égard et qui peuvent être enrichissants. Ça, ça parle du témoignage que l'on doit porter de la gloire de Dieu dans nos vies. D'où soutien qu'on doit s'apporter les uns aux autres. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais j'ai remarqué que les chrétiens aujourd'hui ont moins l'envie de témoigner. Et pas seulement aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Mais souvent, des demandes de prière, on en a. Mais je remarque qu'on a rarement des gens qui viennent nous dire « J'ai été exaucé, merci pour les prières, et voilà ce qui s'est passé. » Parce que parfois, on a une sorte de, je ne vais pas dire de superstition, ça serait trop fort, mais je ne vais pas le dire trop vite. Je préfère garder ça secret. On a besoin de témoigner de la grâce de Dieu. Parce que les tempêtes que l'on peut traverser dans nos vies, d'autres peuvent les traverser aussi. Et j'ai remarqué souvent que les chrétiens dans l'épreuve ont toujours l'impression d'être un vilain petit canard. Et c'est pourquoi parfois ils prennent du recul, on les voit moins en réunion. D'abord on les voit faire la tête, plus trop partager. Ils prennent du recul, ils s'éloignent, pensant qu'ils ne sont plus dignes d'être appelés chrétiens, pensant que l'épreuve qu'ils traversent, la tentation qu'ils ont subie, la chute dont ils ont été victimes les rend différents des autres. Alors que quand on connaît les vies des uns et des autres, on peut dire, mais rassure-toi mon frère, si tu as eu telle épreuve, rassure-toi ma sœur, si tu as eu telle difficulté, si tu es tombé, la Bible dit que si l'un tombe, l'autre l'achève. Non, le relève. Mais on a besoin d'entendre ces témoignages, on a besoin de faire de la dendrochronologie, et de voir combien, effectivement, dans telle épreuve, dans telle souffrance, dans telle difficulté, Dieu était capable d'aider quelqu'un et de lui redonner courage. Le tronc, c'est vraiment le symbole de la stabilité au travers des siècles qui permet de voir ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Ça me parle ? Est-ce que ça vous parle ? On parlait tout à l'heure de la dessiccation du bois à cause d'attaques à l'écorce, mais il y a des blessures aussi. Un arbre peut connaître des blessures naturelles, on parlait des animaux ou autres, mais on parlera tout à l'heure des branches aussi qui tombent d'elles-mêmes, qui se dessèchent. Et sachez que dans l'arbre, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il se répare. Et ça, vous avez déjà vu des plaies d'arbres ? Des fois, vous voyez, comme hein, on met souvent les chouettes dans les trous, là où ça s'est bouché, vous savez, hein, Walt Disney, ils aiment bien faire ça, hein, Willy Wilson. Mais on voit des arbres, quand ils ont perdu une branche ou un endroit où ils ont été attaqués, on voit qu'effectivement, il y a comme un bourrelet qui s'est fait autour, et puis L'arbre, le tronc, a cette possibilité, cette capacité de se guérir. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour agir dans nos cœurs et pour venir à bout des plaies les plus graves. Et sa parole et son esprit en nous sont ce qui peut nous consoler, nous aider à aller de l'avant. Mais parfois, les blessures, elles peuvent apporter des tas de choses. Pour un arbre, ça peut provoquer des pourritures qui affectent sa vie, mais en plus, ça rend le bois inutilisable. J'en regardais tout à l'heure les poutres, on voit à des endroits, c'est fendu. Et des arbres qui ont été vraiment trop attaqués ou la guérison n'est pas venue assez vite, la pourriture, elle rend vraiment impropre à quoi que ce soit, voire même au bois de chauffage. Et le but du diable, c'est bien de nous rendre impropres, à servir Dieu, à être son témoin, et à pouvoir être l'arbre que Dieu veut que nous soyons. Parfois, on a des blessures qu'on n'ose pas montrer au maître. Il y a des choses qu'on enfouit, que l'on cache. Mais on sait ce que ça produit. Amertume, colère, haine, des choses qu'on ne serait pas censé voir dans l'Église si nous étions tous parfaits. Vous savez que cette assemblée, elle est complètement imparfaite. Vous entendez des choses agréables ce matin, hein? Mais c'est imparfait parce que moi je suis là et moi je suis imparfait. C'est pour ça qu'ils m'ont invité, ils ont dit qu'il faut qu'il y en ait au moins un qui voit ce que c'est. Mais c'est important de réaliser qu'il y a des choses parfois qu'on enfouit, que l'on ne présente pas à Dieu. Et quelle que soit notre expérience, quelle que soit, et surtout, quand on a de l'expérience, quand on a de la bouteille, on a notre orgueil. Mais non, mais si je dis que j'ai tel problème, si je demande la prière, on va penser quoi de moi depuis tellement de temps, j'ai tant de responsabilités, tellement de casquettes, tellement de choses. Alors on se cache, mais on ne guérit pas. Et cela peut malheureusement nous amener très, très bas. Alors que dans la parole de Dieu, nous avons tout pour guérir. Dans l'Église, nous avons tout pour guérir. Jésus a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, publier une année de grâce de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche de dire, Seigneur, voilà, j'ai telle blessure, telle souffrance, viens à mon secours. Dans des temps de week-end comme ça, c'était l'occasion de voir quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qu'on connaît bien. Si on a une difficulté, des frères, moi j'ai besoin de ta prière, soeur, j'ai besoin de ton secours, de ton aide. On n'est pas obligé de tout dire, mais on peut partager nos fardeaux, nos souffrances. C'est nécessaire. Sinon, on sera impropre au service. Notre service, on ne le fera plus avec joie, mais en grommelant. C'est encore moi qui fais des chants, ce soir. Oh, punaise, c'est moi qui dois préparer le vidéoprojecteur, mais c'était pas mon tour, et puis j'ai encore pas eu des chants. Ça vous arrive pas? Moi, ça m'arrive tout le temps. S'il y a des choses qui ne ressemblent pas à votre vie, j'en suis désolé. Mais qu'est-ce que parfois on peut être acariâtre? Qu'est-ce que parfois on peut avoir un trop-plein, un ras-le-bol? Laisse-moi te dire qu'il y a tout en toi pour être guéri. Tout en toi pour être réparé. Et si ça laisse des traces, ça fera plus mal parce que ça sera guéri. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Parce qu'il y a toute cette partie-là qui est dans l'ombre, alors je me pose la question. Alors il est déjà moins le quart. Alors est-ce qu'il y a déjà quelques questions? Sinon je poursuis un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Comme la première question est toujours la plus difficile, passons tout de suite à la deuxième. Alors je livre cela à votre réflexion. Hébreux chapitre 5, verset 12. Où l'auteur de l'Épître dit ceci. « Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Si demain je vous présente un arbre centenaire et que c'est encore un arbrisseau, vous allez me dire quoi? C'est pas possible. Il a un gros problème. Mais des fois, en tant que chrétien, on peut être comme ça. Avoir vécu 20 ans avec Dieu et toujours être un arbrisseau. Ne pas vouloir s'endurcir. Ne pas vouloir grandir. Garder un réseau racinaire tout petit et très peu de branches comme ça, j'ai pas beaucoup d'efforts. Vous savez la puissance qu'il faut pour faire monter la sève du sol jusqu'au bout de chaque branche et de chaque feuille? C'est impressionnant. Le tronc est un élément capital. Mais si on veut rester tout petit, si on ne veut pas grandir dans la connaissance de Dieu, eh bien on va rester un petit arbuste. Et qu'est-ce qui arrive au petit arbuste? S'il échappe au sanglier, il échappera peut-être pas au promeneur, il échappera peut-être pas à la chute d'un plus gros arbre à côté. Et le danger, c'est effectivement de périr. De périr. Un autre texte, puis après peut-être les questions viendront. Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à lui que tous les liens de son assistance, par contre, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. L'image du tronc d'arbre, c'est vraiment cette image qui tient tout ensemble. Si vous n'avez que des branches sans tronc, il n'y a rien. Et si vous avez un tronc sans les racines, il n'y a rien. C'est un tout. Mais le lien entre la terre et le ciel, excusez-moi l'image, mais on y viendra demain. Les racines, c'est la terre. Les feuilles, le haut de l'arbre, c'est le ciel. Jamais un arbre pousse dans l'autre sens. Hein. On est d'accord? C'est le tronc. Ça nous parle de l'équilibre de notre vie en tant que chrétien. On est à la fois sur cette terre et à la fois intéressé aux choses d'en haut. Et tout cela, ça tire son accroissement du Seigneur. Et si l'Église devait être l'image des branches, dont on parlera tout à l'heure, alors le tronc, le chef, celui qui tient tout solidement assemblé ensemble, c'est bien Jésus-Christ. Y a-t-il des questions?
C'était quoi le
dernier texte? Éphésiens, chapitre 4, verset 7. Des remarques? Sinon, on peut approfondir encore un peu, on a 13 minutes avant la pause. Ça va, 13 minutes, on prend encore le coup? Pas de questions?
Si, ah, allez-y. Dans la vie d'un arbre, il y a l'hiver où la sève ne monte plus et l'été, enfin le printemps, elle est. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec notre vie
Alors, on va pouvoir la faire effectivement à partir des feuilles dont on va parler demain. D'accord. Mais on peut en parler un petit peu maintenant quand même. Parce que si vous allez vous promener là, vous allez voir que c'est vraiment merveilleux. Je vous invite à revenir en décembre, le paysage sera plus du tout le même. Il y aura de la neige, peut-être, parce que là c'était tardif cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas, les arbres, pour ceux du moins qui ont des feuilles caduques, parce qu'il y a des persistants, des semi-persistants et des caduques, vont se retrouver complètement dépouillés. Et vous aurez juste les troncs, les branches et plus rien dessus. Et on appelle ça la morte saison. Parce qu'un tronc d'arbre, parce qu'un arbre sans ses feuilles, sans ses fruits, sans ses fleurs, n'est pas utile.
Et Jésus a le fils.
Mais il vit.
Il vit toujours. Il n'est pas mort. Il y a une saison simplement où, parce qu'on pense, beaucoup pensent, c'est une fausse idée, que c'est parce qu'il y a moins de lumière et que les feuilles tombent, mais c'est tout simplement pour plus résister au vent et au froid que l'arbre garde son énergie, pour justement pas tout dépenser dans les feuilles qui vont être abîmées par le froid, etc. Et ce temps d'hivernage, c'est le temps où il reconstitue ses forces et ses réserves pour que dès que le temps le permettra. Alors l'analogie pour nous, elle est facile. Parfois, on est activiste. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Elle était quoi? Elle était assise au pied du maître. Quand je travaillais dans mon bureau, un jour, mon chef m'a, dit, m'a convoqué dans le bureau, il m'a dit « Arnaud, il y a un problème avec toi. » C'est quoi le problème ? Il m'a dit « Tu bouges pas assez. » Je travaillais dans les assurances, je recevais les clients à mon bureau, je les raccompagnais à la porte, je faisais mon travail, etc. Et il m'a dit « Mais regarde tes collègues, ça bouge tout le temps. » Je dis « Ok, très bien, ils bougent beaucoup. Maintenant, regarde les résultats, regarde les chiffres. Et dis-moi ce que tu veux, qu'on brasse de l'air ou alors qu'on fasse du résultat. » C'est pas parce qu'il n'y a plus les feuilles que l'arbre est mort, bien au contraire, mais il se prépare pour la prochaine saison et à passer les moments rudes. Et s'il y a des choses qui demeurent, ce sera toujours le tronc. Vous savez que quand un arbre meurt, la chose qui, dans la forêt, qui dure le plus longtemps, ce sont les troncs. Les branches disparaissent assez vite, les racines se flétrissent, mais le tronc d'arbre, c'est ce qui est le plus long à se dégrader, se décomposer. Et quand, même quand l'arbre est mort, on le voit avec tout ce que l'on peut faire, il y a des choses solides, la force reste. Je crois que ces temps nous parlent que on est dans un monde de productivisme. Il faut toujours faire, faire, faire. On a des temps, on a besoin de se tenir au périmètre, simplement de recevoir. Il y a des temps où on a besoin de dire « Seigneur Jésus, moi j'ai besoin d'être ressourcé, j'ai besoin de reprendre des forces. » On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et un des signes de l'épuisement des chrétiens, c'est quand justement ils veulent toujours tout donner, et comme ils ne vont plus au pied du maître pour être ressourcés, eh bien c'est eux qui se vident. Et quand vous les voyez, vous dites « Je suis vidé. » Le tronc d'arbre n'est jamais vide. Que vous le coupiez en hiver ou que vous le coupiez au printemps, l'intérieur n'a pas changé. Il est toujours prêt. Est-ce que quelqu'un se sent vidé ? Coupé. Il y a des moments où il faut savoir dire, ou quand on traverse la tempête, savoir pas s'éparpiller, et savoir dire « Seigneur, j'ai besoin de me tenir à tes pieds, parce que j'ai besoin de reprendre des forces. Parce que mon but, c'est pas de produire tout le temps, mais au moment où tu le voudras. » C'est pour ça que le passage sur les racines était important. Ce sera pour d'autres fois peut-être. Mais on en parlera quand même un petit peu demain, parce qu'un arbre est constitué de choses qui restent tout le temps et de choses qui changent très régulièrement. Les feuilles ne sont jamais les mêmes sur un arbre. Vous avez remarqué ? Même sur les arbres persistants. Est-ce que ça répond un peu à votre question ?
Oui, oui.
Il y en a tout d'autres.
Maintenant, il faut savoir comment discerner les temps. Quand est-ce qu'on doit être en hiver, quand est-ce qu'on doit être au...
On en parlera tout à l'heure et demain. Mais une chose est sûre, c'est que parfois, quand vous regardez nos forêts, vous avez du mal à vous rappeler ce qui s'est passé en 99. Mais en 99, il y a des endroits où on pouvait se promener et on voyait les ravages de la tempête. Il y a des circonstances parfois dans nos vies où ça souffle tellement fort qu'on n'a pas besoin de dessin pour dire « il faut que je lève le pied » afin de pouvoir toujours être disponible pour le maître et savoir si parfois il ne veut pas non plus qu'on réfléchisse sur notre engagement. Et des temps de retraite comme ce week-end, c'est aussi bon. Des temps de jeûne et de prière, ça vous parle ? En fait, je vais vous dire la vraie mission. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait un problème en cuisine. Il faut que je vous tienne, on va jeûner et prier aujourd'hui. Mais s'il y a bien un temps qui s'apparente au temps d'hiver, au temps où on ne produit pas de feuilles et de fruits, c'est bien ces temps où on se tient devant Dieu et on a vraiment besoin de sa direction pour nos vies. Et ce qui compte dans un arbre, c'est qu'il y ait l'harmonie et que ce qui est persistant soit en bonne santé pour que ce qui est renouvelé puisse continuer de se renouveler. Comme on le disait tout à l'heure, si l'arbre, on lui enlève une partie de l'écorce ou s'il y a un parasite, c'est tout l'arbre qui meurt. Vous connaissez cette parole de Jésus qui nous dit déjà la cognée est mise à la racine. De la même manière, quand on s'attaque aux racines, l'arbre meurt. Si vous coupez une branche, il cicatrisera. Si vous lui déplumez toutes ses feuilles, il repoussera. Et même si le temps passe au froid et qu'il a besoin, dès qu'il y aura la moindre lumière, ça revivra. Gloire à Dieu. Mais il y a des choses importantes. Notre communion et notre solidité en tant que disciples de Christ, notre travailler à notre affermissement. C'est pourquoi Jésus pourra dire à Pierre, qui vient quand même de vivre quelque chose de difficile, « Mais toi, quand tu seras remis, affermis tes frères. » La fonction du tronc, c'est quand même cette solidité. C'est d'assurer cette force de l'arbre. Ça, c'est permanent. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il y a des temps dans notre vie. Hier, je discutais avec... Je faisais une visite à des aînés de l'Église. Et ils disaient, c'est fou comme aujourd'hui, les marches d'escalier nous semblent plus grandes qu'avant. Et ils me disaient, frère, si vous saviez tout ce qu'on a fait du temps de notre jeunesse, mais là, même venir à une réunion du soir, c'est un effort. Je sais, en tant que pasteur, en ayant discuté avec des pasteurs retraités, certains m'ont dit, tu ne peux pas savoir comme c'est dur le jour où le téléphone ne sonne plus. Quelqu'un a pris notre place, quelqu'un a pris la succession, on est en retraite, et on ne nous appelle plus, c'est plus nous qu'on appelle. Ça peut arriver quand on traverse la maladie, ou pour une raison X ou Y, on est arrêté. Le service dans lequel on était investi est arrêté pour un temps indéterminé, et là, on se dit, à quoi je sers? Quelle est ma journée ou autre? Mais c'est là où il faut dire, Seigneur, je prends du temps pour venir à tes pieds, pour que dès que ça repart ou dès que tu me montreras une direction pour ma vie, je sois prêt. Et ça me parle aussi de cette pensée du Seigneur qui nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont nécessaires, il y a une chose qui est vitale, c'est d'être prêt le jour où Jésus reviendra. Ça vous parle ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il reste 3 minutes.
Peut-être pour revenir au tronc, tu parlais avant de dureté. Mm-hmm. Effectivement, la notion de dureté avec la notion de chrétien, un peu de mal, je verrais plus sur l'aspect solidité.
Oui. Est-ce que c'est, voilà. Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la dureté de l'arbre. Et l'arbre, effectivement, c'est dur. Et si vous voulez faire un concours tout à l'heure de voir celui qui casse le plus vite un arbre, il y en a un qui vous donne une hache, il y en a un qui vous donne un couteau suisse, et un autre un couteau en plastique. Et vous verrez lequel... Vous êtes d'accord qu'un arbre, c'est costaud. Hein, et qu'il faut des bons outils, et il faut y aller à plusieurs fois. Un chrétien ne doit pas être dur vis-à-vis des autres. Moi, je connais les chrétiens mal rasés. Ceux, quand on vient leur faire la bise, vous savez que ça pique.
Oui, bon, oui. On réglera ça après.
C'est jamais agréable quand ça... Hein, d'accord. C'est souvent mes enfants, mes filles, quand elles étaient petites, « Oh, papa, tu piques !» Mais on a des chrétiens comme ça, ils sont un petit peu, voilà, pour qu'ils piquent. Et là, je ne parle pas de la barbe, mais je parle des fois dans la conduite. Et souvent à l'égard des nouveaux, d'ailleurs. Les jeunes convertis qui arrivent dans l'église, où des fois on est tellement exigeant vis-à-vis d'eux, et puis vis-à-vis de ceux qui sont là depuis longtemps, on est des fois tellement « Oh, mais il est comme ça. Oh, il a toujours été comme ça. » C'est pas envers le Seigneur qu'il faut qu'on soit dur, il faut pas qu'on soit dur les uns envers les autres. Parce qu'on n'est pas en compétition. Les arbres doivent monter, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher la lumière, et le but des branches, c'est de s'étendre pour chercher le plus de lumière possible, afin de produire le plus de fruits possible. Mais si nous, là où nous devons être durs, c'est face aux attaques de l'ennemi. On parlait de cuirasse, on parlait tout à l'heure d'être affermi. Et ça, c'est nécessaire. L'intérieur du bois est tendre, mais l'extérieur, faut s'y attaquer. La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Vous connaissez les armes d'Éphésiens 6. Quand le Seigneur nous parle de combat, quand on parle de combat spirituel, il ne s'agit pas d'agiter les bras et de parler fort, mais bel et bien de résister à toutes les tentatives de l'ennemi qui est là pour déstabiliser l'Église. Et pour aller un petit peu plus loin, un arbre tout seul, c'est compliqué. Et ça ne vient pas longtemps. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est autre chose. Il y a des fois des forêts où la moindre brindille, C'est rien du tout pour nous en tant qu'être humain, mais mettez 4-5 arbres avec plein de brindilles et vous verrez si vous arrivez à passer au milieu. Ce sera déjà beaucoup plus difficile. La force du chrétien, la force de l'Église, c'est aussi ça. La communion fraternelle, être ensemble. Là, je m'éloigne un petit peu du tronc, mais pour dire que quand on est tous ensemble, il y a des phénomènes qui sont impressionnants. Pour vous parler des racines, rapidement, des arbres qui sont dans un même endroit, parfois partagent des racines communes. Et toute la terre dans laquelle ils sont plantés, ce qu'on appelle la rhizosphère, partout où il y a les racines, la qualité de la terre change. Et ils la rendent plus fertile, pour que les arbres se portent mieux et puissent grandir plus vite. Alléluia ! Et quand on est tous ensemble, solides devant l'adversaire, devant l'ennemi, vous savez ce qui se passe ? Il se passe ce qu'il faisait avec Jésus. Il s'enfuit, attendant un autre moment favorable. Jusqu'au jour où il sera complètement écrasé. Alléluia. Il a été vaincu à la croix. Aujourd'hui, il essaye et il va retenter. Parce qu'on sait qu'un arbre, un coup ne suffit pas, mais quand on donne à fond, on finit par le faire tomber. Et par la grâce de Dieu, si on est fort ensemble, il résistera, il s'en ira. Et puis on tiendra jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Il est 11h01. Je vous ai mangé une minute de pause. Termine par la prière et puis on se revoit dans un quart d'heure. Seigneur Jésus, je veux te remercier, je veux te bénir pour la vie nouvelle que tu nous as donnée et pour ce que tu veux que nous soyons pour toi. Être un disciple de Christ, Seigneur, c'est bien plus qu'être sauvé. C'est vraiment être ton témoin en toutes circonstances. Seigneur, tu nous appelles à grandir en toi. Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes appelés à grandir, à prendre notre place, Seigneur Jésus, à nous affermir, Seigneur Jésus, et à porter du fruit. Permets-nous, dans ce que nous allons partager encore, et dans ce que nous vivons dans nos églises, dans notre vie de tous les jours, à vraiment veiller sur la solidité de notre foi, notre ancrage, Seigneur, dans ta parole, le fait de tenir dans la tempête. Seigneur Jésus, on a tellement besoin, aussi pour ce monde, d'être forts ensemble, pour montrer, Seigneur, ce qu'est l'Église. Seigneur, viens à notre secours. Instruis-nous, continue de nous enseigner et à ton nom soit toute gloire. Amen. Bonne pause. Je ne sais pas où ça se passe, mais ici.